parle d'accueillir Denis Kampfner. Je travaille en cette année sur le triptyque croyance, certitude, conviction. Et c'était assez naturel de solliciter un cartésien à propos du terme central de ce triptyque, celui de certitude. Avec la question d'un malentendu, évidemment, toujours possible, puisque il y a la certitude dont parle Lacan, qui est elle-même bifide, puisque Lacan parle de la certitude du côté de la psychiatrie et de la certitude psychotique, et en même temps, le même Lacan parle de la même certitude, enfin du même signifiant, avec un sens tout à fait différent, puisqu'il parle de la certitude cartésienne qui, selon lui, fonde le régime moderne du sujet. Donc, ne serait-ce que pour débrouiller ce malentendu toujours possible et qui attend éventuellement à se reconstituer, nous avons pensé que c'était très utile de prendre les conseils et les lumières d'un vrai cartésien. Alors, je vous présente donc un vrai cartésien. Je suis très content qu'il... On n'en voit pas tous les jours, c'est tout à fait certain. Denis Kampfner,
quoi, de disparition.
Ah ben, Denis Kampfner, qui, comme vous savez, si vous avez lu l'annonce, enseigne la philosophie moderne donc à la Sorbonne, et qui a un parcours auprès de Descartes déjà assez long et en tout cas très nourri, puisqu'en 1995 il a publié cet ouvrage assez majeur qui s'appelle L'homme des passions, et qui est un commentaire du traité des passions de l'âme, et puis qu'il a ensuite, au fil des années, égrené un certain nombre de choses, dont c'est ce que j'ai amené, mais tu l'as parlé, je crois, le dernier en date, ce petit livre absolument extraordinaire et drôle, et très drôle, c'est très important, qui s'appelle Descartes n'a pas dit, et qui est donc le recueil de tout ce que Descartes n'a pas dit.
Non, pas tout. Oh là.
C'est pour ça qu'il y a des points de suspension
sur la couverture.
Voilà. Et par ailleurs, de façon plus, c'est moins divertissante, il est à l'origine de l'édition en cours des œuvres complètes de Descartes, qui nous manquait cruellement depuis 1879, hein, je crois. L'Adam et Tamré, c'est ça.
L'Adam et Tamré, ça se termine en 1911 ou 1913, je ne sais plus.
On va le retrouver.
Nous n'avons pas d'édition complète de Descartes.
1913.
Depuis un bon siècle, grâce à toi.
Non.
Et aux gens qui étaient assez réunis.
Bon, d'abord, je ne suis pas à l'origine, ce serait une histoire qui mériterait une séance entière. Et ensuite, c'est loin d'être terminé.
Voilà, et donc tu vas nous parler, au fond, de... Alors, je ne sais pas si tu as gardé le...
Je l'ai gardé.
Voilà, sur Descartes et la sécurité de l'esprit.
Oui, quelque chose comme ça. Ben merci, merci. C'est un plaisir d'être parmi vous et je remercie particulièrement Frédéric pour son invitation. Frédéric avec qui je suis en dialogue depuis un certain nombre d'années maintenant et qui est lui-même un cartésien à qui on doit un beau livre subtil que j'ai apporté, que vous connaissez, ce qu'on doit à Descartes. Alors, Je me souviens d'avoir passé un certain nombre d'années à lire intensivement Freud, la littérature freudienne, et aussi Lacan, mais ces années sont maintenant très lointaines. Donc, je vous prie d'excuser ce qui est devenu mon ignorance de toutes ces choses, et mon approche sera radicalement non technique. Mais j'imagine que nous trouverons facilement des connexions de concepts.
Le fait est que Descartes, pour les analystes de longue date, un sujet de choix. Chose qu'on peut rapporter un double motif. D'une part, le statut particulier qu'il possède dans l'histoire de la philosophie moderne ou dans l'historiographie de la philosophie, comme auteur à qui l'on prête une révolution philosophique, une sorte de révolution philosophique, c'est un concept un peu problématique, ouvrant la pensée moderne en tant que telle, fondant, Frédéric l'évoquait à l'instant dans la formule lacanienne, le régime moderne du sujet. Et puis, c'est un sujet de choix aussi pour la dramatisation particulière qu'il a imprimée à son entreprise. Tout se passe comme si la pensée philosophique, ou du moins la transformation, la réforme de la philosophie telle que Descartes l'a conçue, ne pouvait avoir lieu, n'avait pas pu avoir lieu, ou en tout cas se présenter, sinon sous la condition et sous la forme d'une espèce de dramatisation. Et ça a commencé très tôt, et on peut dérouler à ce titre une longue histoire avec un certain nombre de lieux visités, non seulement par les spécialistes, mais aussi par les psychanalystes, les rêves supposés fondateurs de novembre 1619, dont nous avons effectivement donné une nouvelle édition, enfin des textes différents dans ce volume qui est paru il y a quelques semaines, enfin trois ou quatre mois, la recherche de la solitude en Hollande plutôt qu'en France, avec ce que ça implique d'économie particulière, de la sociabilité, la mise en scène de soi dans le discours de la méthode. Je resterai caché derrière le tableau que je donne de ma vie, et puis je raconte comment je me suis trouvé comme un homme qui marche seul dans les ténèbres, etc., à un moment donné. Et puis en dernier lieu, il y a, enfin, pour l'essentiel, il y a la dramaturgie propre des méditations métaphysiques, méditations de philosophie première. Évidemment, sur le plan analytique, on pourrait trouver encore d'autres objets. Par exemple, ce texte du traité des passions de l'âme qui m'avait longtemps retenu, où un mari aux obsèques de sa femme se trouve joyeux dans le plus intérieur de son âme, avec malgré un reste d'amour et de pitié, enfin un texte très singulier et pas nécessairement sympathique, ou bien il y a tout l'aspect intérêt pour les princesses, pour les personnes de haut rang, le développement de la correspondance avec Elisabeth, sur fond une espèce de passion, oui, et puis l'intérêt pour l'invitation finale, malheureusement, de la reine Christine de Suède. Donc ça, c'est des objets intéressants. Hein. Mais au cœur de la dramatisation cartésienne, il y a la grande scène de la métaphysique ou philosophie première qui part du renversement, presque une destruction de toutes les anciennes opinions du sujet méditant, avec des raisons de douter de plus en plus impressionnantes, qui passe par le moment clé du cogito et qui se poursuit jusqu'à l'assurance, la certitude acquise de l'existence d'un Dieu infini et souverainement parfait. Donc au cœur de cette dramatisation, il y a tout le moment ascendant des trois premières méditations. Ensuite, après les trois premières, comme vous savez, l'étau du doute hyperbolique se desserre progressivement et on assiste à un processus de réinstallation du sujet méditant dans l'usage de ses facultés, dans la science en général, et enfin dans son corps ou dans son environnement, avec son environnement physique. Sujet, chacun sait aussi que le terme n'est pas très cartésien, qu'il s'agit dans le sens que nous lui attribuons d'une catégorie plutôt post-cartésienne. On trouve néanmoins dans les passions de l'âme, article 160, petite mention qui pourrait aller dans le sens moderne. Les causes de l'estime de soi et de l'estime des autres hommes chez les généreux,
sont si merveilleuses, écrit Descartes, à savoir la puissance d'user de son libre arbitre qui fait qu'on se prise soi-même, et les infirmités du sujet en qui est cette puissance, qui font qu'on ne s'estime pas trop. Ces infirmités sont un objet d'admiration au sens ancien de l'admiration, c'est-à-dire l'étonnement, rapport un peu interrogatif. Ces causes sont si merveilleuses qu'à toutes les fois qu'on se les représente de nouveau, elles donnent toujours une nouvelle admiration. Donc, au cœur de la dramatisation cartésienne, ou de la dramaturgie cartésienne, il y a l'auto-réinstitution du sujet cartésien, sa renaissance, inscrite dans son nom. Cette renaissance, pourrait-on se demander, passe-t-elle par une sorte de mise à nu ? Oui et non. Il y a dans la deuxième méditation un passage de mise à nu, mais c'est à propos du célèbre morceau de cire. Quand je distingue la cire d'avec ses formes extérieures et que tout de même que si je lui avais ôté ses vêtements, je la considère toute nue, certes, quoiqu'il se puisse encore rencontrer quelque erreur dans mon jugement, je ne la puis concevoir de cette sorte sans un esprit humain, sans un entendement. C'est par l'entendement que je la conçois. Mais le sujet méditant, lui, est-ce qu'il peut à proprement parler se mettre à nu ? Il n'en est pas question ici, pas simplement pour des raisons de confiance rhétorique, mais aussi parce que il s'agit de se dépouiller de son corps, et que serait un simple esprit mis à nu ? Il faudrait qu'il ait quelque chose comme des contours. Mais il y a à coup sûr dans le registre des pensées ou des croyances un dépouillement de tout ce qui peut être suspect d'inauthenticité, de tout ce qui n'appartient pas à titre indéfectible au sujet méditant, et donc une forme de mise à nu de la pensée. La discussion qu'on peut avoir sur cette notion illustre, à mon avis, la difficulté de trouver à la réinstitution, reconstruction ou auto-réinvention du sujet cartésien une figure symbolique ou métaphorique adéquate. Et ça a du rapport aussi avec la difficulté réelle, avec de nombreuses discussions entre interprètes et entre philosophes, même en général, je veux dire au-delà des études cartésiennes à proprement parler, la difficulté d'indiquer quel est le mode exact de la relation à soi dans le cogito. Qu'est-ce que c'est que ce rapport à soi dont il est question dans le cogito? Il y a là une espèce d'ombilique mental ou noétique qu'on ne peut sans doute approcher que par esquisse abschattungen, comme le dit Husserl, de l'objet physique. Mais ce qui complique encore les choses, c'est que ce grand moment d'auto-réinvention a lieu, je ne dirais pas en présence, mais par rapport à un autre. Avec deux figures de cet autre, la chose est bien connue, le dieu trompeur et le malin génie, le mauvais génie. Deux figures qui ont été, de manière, en des termes tout à fait, dans des études classiques, distinguées par Henri Gouillet, qui caractérise le dieu trompeur comme une hypothèse métaphysique, alors que le malin génie est une fiction méthodologique. Toutes les formulations cartésiennes ne distinguent pas expressément entre les deux. Mais quand même, dans la deuxième méditation, au septième alinéa du texte français, il s'agit manifestement plutôt du malin génie dans la deuxième, parce que les deux interviennent dès la première. Mais moi qui suis-je maintenant, c'est le cogito, hein, déjà, mais moi qui suis-je maintenant que je suppose qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement puissant et si j'ose dire malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper. Là, c'est plutôt le malin génie. Dans la méditation 3, au début, quatrième alinéa du texte français, il s'agit bien d'un dieu. Toutes les fois que cette opinion si devant conçue de la souveraine puissance d'un dieu se présente à ma pensée, je suis contraint d'avouer qu'il lui est facile, s'il le veut, de faire en sorte que je m'abuse, même dans les choses que je crois connaître avec une évidence très grande. Le latin dit que je pense voir le plus évidemment qu'il se peut avec les yeux de mon esprit, même qui se coulisse. Deux figures à distinguer qui, avec deux degrés dans l'altérité. Si on veut, le dieu trompeur, ce sera vraiment le grand autre,
pratiquement. Le malin génie, ce sera pas le petit autre, mais le moyen, moyen autre. Le malin génie, il a une qualité, c'est un adversaire avec qui on peut se mesurer, à qui l'on peut se mesurer. Il dépense un certain effort. Quelqu'un qui est extrêmement puissant, et si j'ose dire malicieux et rusé, donc peut-être plus, sans doute plus puissant que moi, mais qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper, ça veut dire tout de même que son effort se mesure à mon effort à moi. Donc il dépense un certain effort, mais cet effort a ses limites, et il y a un certain nombre de points sur lesquels je peux dire non, qu'il me trompe tant qu'il pourra, il ne pourra jamais faire que. C'est ce qui se passe avec le cogito. Le dieu trompeur, supposer qu'il existe, alors celui-là, non, on ne peut pas rivaliser avec lui. Il fait absolument ce qu'il veut. Mais précisément, c'est contre la menace que laisse planer l'imagination de ce dieu que les méditations s'avancent, et pas simplement dans le jeu avec le malin génie. On ne peut pas manquer de se représenter cette tromperie universelle lié à Dieu lui-même, à ce Dieu, dû à ce Dieu souverainement puissant, comme un très grand péril, et la charge fantasmatique de cette imagination d'un Dieu trompeur est maximale. Un énorme fantasme, alors comment est-ce qu'on peut le caractériser ? Un père destructeur, je ne sais pas, et avec sans doute l'énorme fantasme d'un triomphe remporté sur ce Dieu, avec la substitution à la figure de ce dieu trompeur, la figure d'un dieu protecteur. Un dieu qui me protège dans ma pensée, qui fait que ce que je crois percevoir, ce dont je vérifie que je le perçois clairement et distinctement est vrai, hein, et qui, sur un plan qui n'est pas celui des méditations, m'enverra un certain nombre d'événements dans la vie, dans ma vie, la providence divine fera que je sois confronté à un certain nombre de situations sans que jamais je puisse avoir sujet de m'en plaindre de la providence divine. Mais est-ce que le triomphe sur le dieu trompeur est si assuré? On pourrait peut-être, et on a, trouvé des raisons d'en douter. Je distinguerai trois sortes d'arguments. Premièrement, tant qu'on n'est pas certain que ce Dieu n'est pas trompeur, qu'il n'y a pas un Dieu trompeur, y a-t-il une seule chose dont on puisse s'assurer? Le début de la méditation 3 dit: je dois examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en présentera, et si je trouve qu'il y en a un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur, car sans la connaissance de ces deux vérités, en réalité, le latin n'en met qu'une, c'est le français qui en met deux, il y a toute la question de savoir, toute la question du rapport entre le texte français et le texte latin, une méditation, la traduction française du duc de Luynes, grand personnage, encore très jeune à l'époque, mais grand personnage dont on ne pouvait pas trop discuter les choix. Donc il y a. Mais je vous épargne ces aspects. Là.
On va dire juste un mot.
On est assez peu renseigné. Le duc de Luynes, alors c'est un personnage tout à fait. Il se trouve que je lisais encore hier une étude sur le duc de Luynes, 1620, 1690, fils d'un grand seigneur et père d'un grand seigneur, futur ministre de Louis XIV, et le duc de Luynes a entrepris par lui-même de traduire les méditations sans qu'apparemment le lui ait demandé. Et naturellement, d'ailleurs, c'est ce qu'il lui aurait demandé. Alors, Descartes et ses amis ont été très heureux que le duc de Luynes, un grand personnage, pair de France, entreprenne de traduire ce texte. L'avocat Clercelier, toute autre catégorie,
social se chargeait de traduire, enfin avait commencé lui-même de traduire les méditations, et puis il a traduit surtout les objections et réponses, mais on est très peu renseigné sur les relations personnelles entre Descartes et son traducteur, son noble traducteur. Ils ont dû se rencontrer, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et on ne sait pas donc comment Descartes a véritablement négocié le texte français des méditations tel que nous le connaissons. Or, traduire à l'époque, c'est aussi prendre beaucoup de liberté, beaucoup plus de liberté que en train les traducteurs contemporains. Il y a donc tout un ensemble d'écarts avec le texte latin qui seront d'ailleurs relevés dans la prochaine livraison des œuvres complètes. Ce duc de Luynes a peut-être renforcé le côté dévot des méditations par certaines expressions. En tout cas, c'est un personnage complexe qui s'est converti au jansénisme, enfin, a connu une conversion chrétienne sous l'influence de sa femme Louise-Marie, je crois, Séguier. S'est retiré à Port-Royal après la mort de sa femme, s'est fait construire un château en bordure de l'abbaye de Port-Royal, mais s'est trouvé un peu en difficulté avec les gens de Port-Royal ensuite, car il était trop tenaillé par les désirs de la chair. Il a eu 3 femmes, et il est retombé dans c'est pas la luxure, mais bon, ça a fait tout un problème à l'époque, la libido du duc de Luynes. C'est intéressant, vous pouvez chercher des choses sur ce personnage. À l'époque, nous ne sommes pas très renseignés sur son état d'esprit au moment où il traduit les méditations. Bon, enfin, toujours est-il qu'il met 2 vérités là où le latin n'en met qu'une, mais c'est pas très grave. Je dois examiner s'il y a un Dieu et s'il peut être trompeur, car sans la connaissance de ces 2 vérités, je ne vois pas que je puisse jamais être certain d'aucune chose. Le latin dit « je ne vois pas que je puisse jamais être tout à fait certain d'aucune autre chose que cette chose. Dans l'ignorance de cette chose, je ne vois pas que je puisse jamais être tout à fait certain d'aucune autre. » Alors, le problème est de savoir si ça touche aussi le cogito, parce que c'est au début de la 3e méditation, donc le cogito est déjà effectué. Et d'ailleurs, même si le cogito n'est pas touché, comment fait-on dans ces conditions pour en sortir? Il faut admettre pour en sortir que tout ce que nous percevons clairement et distinctement est vrai, mais ça n'est vrai, dira la 5e méditation, que parce que Dieu existe. Donc, bon, c'est le fameux problème du cercle cartésien. Deuxièmement, peut-être une autre objection, peut-être un peu moins canonique. Si l'on peut s'assurer de l'existence de Dieu et d'un Dieu qui se révélera souverainement parfait et donc absolument bon, pourquoi s'y reprendre à 3 fois dans les méditations? Puisqu'il y a 2 versions, d'une preuve de l'existence de Dieu dans la 3e et encore une autre dans la 5e. Il y a un côté comme ça. Troisièmement, ce Dieu qu'on peut prouver, ne peut-il peut-être pour notre bien nous envelopper de mensonges en nous faisant paraître vrai avec la stabilité et la cohérence requises, ce qui restera faux aux yeux de Dieu et des anges, comme cela est évoqué dans les réponses aux secondes objections, point 4. Nous verrons ce que Descartes répond, mais ce qui reste cartésiennement vrai, c'est que ce Dieu qui nous garantit que 3 plus 2 font bien 5 aurait pu faire que ce ne soit pas le cas. Ça, c'est du Descartes. Aurait pu faire que ce ne soit pas vrai. Donc il y a une espèce de contingence généralisée des vérités qui sont pour nous les plus indiscutables, et le regard de notre esprit est invinciblement attiré vers l'abîme de cette contingence, avec aussi peut-être l'idée que la vérité instituée pour les esprits humains n'est pas la vérité instituée pour d'autres créatures raisonnables, comme Descartes est loin d'exclure qu'il s'en trouve dans un univers indéfini dans son étendue, enfin illimité. Donc, beaucoup de problèmes sont ici réunis, le problème de de la possibilité du doute, le problème du cercle, le problème de l'idéalisme cartésien, le problème de la solidité des preuves de Dieu et du sens de la théorie cartésienne de la création par Dieu des vérités éternelles, notamment mathématiques. Bon, en forçant un peu le trait, dans une certaine ligne d'interprétation, on pourrait dire que l'élément psychotique est un peu partout ici, dans la volonté de récuser tout ce qui offrirait le plus petit doute, le plus petit, dans le fantasme du Dieu entièrement trompeur, dans l'entreprise de pulvériser ce fantasme, dans le fantasme d'un Dieu entièrement protecteur, inversion de signe par rapport au précédent, dans l'angoisse de ne pas avoir assez fait pour établir l'existence de ce Dieu protecteur, ou encore dans l'idée persistante que la réalité obtenue et reconstruite pourrait être seulement celle que ce Dieu nous donne à percevoir. Bon, la question est, que peut dire l'historien de la philosophie en la matière, l'interprète de Descartes qui cherche à limiter l'interprétation, c'est-à-dire dans un genre un peu déflationniste. Peut-être trois choses, et que je développerai rapidement. Premièrement, qu'il faut se défaire, s'agissant du doute cartésien, d'une certaine illusion d'optique qui est instituée par Descartes lui-même. Deuxièmement, que la dramaturgie des méditations est pour partie plus classique que nous l'appréhendions spontanément. Et troisièmement, que on peut douter que pour Descartes il y ait une réelle menace ait jamais pesé sur la connaissance humaine. Premier point, les illusions d'optique sont un objet cartésien. Très tôt, Descartes a réfléchi aux moyens d'en organiser dans les notes de jeunesse. Cogitationes privatae a une place sans doute mal choisie parce qu'au milieu de pensée latine sur d'autres sujets, on trouve un fragment en français qui dit « On peut faire en un jardin des ombres qui représentent diverses figures telles que les arbres et les autres. Item, de même, tailler des palissades de sorte que de certaines perspectives, elles représentent certaines figures. Item, dans une chambre, faire que les rayons du soleil passant par certaines ouvertures représentent divers chiffres ou figures. Item, faire paraître dans une chambre des langues de feu, des chariots de feu et autres figures en l'air, le tout par de certains miroirs qui rassemblent les rayons dans ces points-là, etc. » Donc on peut d'autre part créditer Descartes d'un art d'écrire qui a été nourri aux meilleures sources, la rhétorique classique, Cicéron, Quintilien, la fréquentation scolaire des poètes latins, et aussi celle des grands écrivains des années 1620, en premier lieu son ami Lunico Eloquente, Jean-Louis Guesse de Balzac, un personnage très important. Or, cet art d'écrire ne peut pas manquer d'être lui aussi, de manière occasionnelle, un art d'organiser des apparences et de réaliser à l'occasion, dans un écrit philosophique, des perspectives curieuses comparables à celles qu'aménagent les jardiniers. Encore faudrait-il évoquer, outre l'art des jardins, dans ses rapports avec l'optique, la peinture à laquelle le discours de la méthode se réfère plusieurs fois, mais aussi bien l'architecture qui a aussi sa place. Il n'y a pas de comparaison tirée des autres arts qui soit entièrement pertinente pour caractériser le travail de pensée et d'écriture du philosophe mathématicien, métaphysicien qu'est Descartes, mais il n'y en a aucune qui ne soit pertinente dans une certaine mesure et à sa façon. Et c'est, me semble-t-il, ce qu'il faut garder à l'esprit en abordant les méditations avec la composition soigneusement symétrique avec les trois premières ascendantes et les trois suivantes descendantes, avec pour sommet le moment contemplatif de la fin de la troisième, là où le duc de Luynes a rajouté des adjectifs pour faire plus dévot, enfin, sans doute lui. La composition très rigoureusement symétrique des méditations indique le caractère supérieurement concerté et de l'ouvrage, et c'est vraiment extraordinaire comme architecture. Alors, l'illusion, en l'occurrence, tiendra au point suivant, c'est que la première méditation nous présente quelqu'un qui va se jeter à l'eau.
J'appelle se jeter à l'eau le fait d'entreprendre, de détruire, ou du moins de renverser et vertérer méthodiquement et jusqu'au fond, funditus, tout le système des certitudes dont il croyait disposer auparavant. Bien entendu, pour autant que le langage de la méditation 1 est celui des fondements, ce langage suggère davantage, comme celui du discours de la méthode, un problème de construction, avec un édifice à reconstruire, plus unitaire et solide que le précédent, un problème de construction plutôt qu'un problème de transport ou d'accès à un lieu donné impliquant traversée d'un océan, d'un lac, d'un fleuve, etc. Mais cette image de se jeter à l'eau n'est pas absente des méditations, elle est impliquée au début de la méditation 2, où il s'agit de se tirer d'un gouffre profond et tourbillonnant, gurges profundus, le périlleux de l'entreprise étant par là beaucoup mieux dépeint. Donc je parle de quelqu'un qui va se jeter à l'eau, mieux vaudrait dire quelqu'un qui s'y jette aussitôt, parce que les préliminaires sont absolument minimaux. Tout ce que dit, pour commencer, le sujet des méditations se réduit à quelque chose comme ceci. Ça fait un bon moment que j'ai pensé que pour atteindre un certain point, il faudrait que je me jette à l'eau. Maintenant, j'ai assez attendu, donc j'y vais. Hein. Et il y va, en effet, sans avoir vraiment justifié son entreprise, il y va aussitôt en abandonnant ou en défaisant un à un les principes sur lesquels reposait sa représentation du monde ou du tout de la réalité ou du moins sa confiance dans cette représentation. Alors cette rapidité, me semble-t-il, mérite d'être soulignée et avec elle mérite de l'être d'une part le coefficient de résistance du sujet du doute aux applications de sa propre résolution. L'opération qui affecte les maximes de la vie et de la pensée ordinaire, s'accompagnant en lui d'une protestation instinctive proportionnée à l'ancienneté, à la familiarité des pensées dont il s'agit de se défaire. Et on doit souligner aussi le caractère tourbillonnant du texte cartésien où l'énoncé de chaque résistance débouche sur la proposition d'une raison plus forte. Alors, supposons un lecteur exceptionnellement attentif qu'on placerait directement devant ce texte, directement devant les méditations et qui en accepterait les prémices, alors on imagine ce lecteur s'enfonçant avec le sujet des méditations dans les raisons de douter de toute chose et se retrouvant à la fin de la première ou au début de la seconde dans la même situation que ce sujet, incapable de se tenir à la surface de l'eau, de ce gouffre tourbillonnant. Nous avons tous un tel lecteur à l'esprit et c'est cette représentation qui sert d'une certaine manière de norme à notre propre lecture. Mais on peut se demander si ce lecteur est possible. Ma conviction est qu'il ne l'est pas et que la distance entre ce lecteur et nous est aussi irréductible que la distance entre l'auteur des méditations et l'esprit que ce texte met en scène, le sujet que ce texte met en scène. Et c'est... Je ne parlerai pas ici d'une distance entre Descartes et Descartes, entre le Descartes auteur et le Descartes sujet des méditations. Les commentaires qui usent de formules, il y en a encore, comme « pour commencer, Descartes considère que, arrivé à ce point, Descartes se rend compte que ». Ces formules présupposent toujours, entre le sujet de l'énonciation et le sujet de l'énoncé, une forme d'identité qui précisément fait question. Il y a au contraire de fortes raisons de nier que le sujet des méditations soit Descartes lui-même. Formellement parlant, bon, il y a bien, c'est les méditations métaphysiques de René Descartes, ça s'annonce comme ça. Donc le « je » est évidemment conduit à le référer à René Descartes plutôt qu'à un autre. Mais en même temps, formellement parlant, est ou plutôt devient le sujet des méditations, quiconque assume les actes intellectuels qui lui sont attribués. Nul doute que ce sujet n'ait été en premier lieu Descartes, mais la composition même du texte vaut construction de son sujet et dissociation de ce sujet avec la personne de l'auteur. Et on peut ajouter quelques éléments sur ce point. D'abord, ce qui me semble important, que les méditations métaphysiques sont la réélaboration d'une matière philosophique qui a été définie des années auparavant. Descartes l'a plusieurs fois indiqué, ses premières méditations datent de 1629-1630. Elles ont donné lieu à un premier traité, vraisemblablement inachevé, en tout cas perdu sauf si on le retrouve au fond d'une bibliothèque, comme on a retrouvé récemment une copie inconnue des règles pour la direction de l'esprit, et un collègue américain vient de retrouver une copie manuscrite de méditation dans une bibliothèque de Toulouse. C'est pas une copie autographe. Donc, on retrouve des choses. Hein. Mais ce traité-là, il est présumé perdu, le traité de 1629, et c'est le texte même dont la quatrième partie du discours de la méthode en 1637 est supposée fournir le résumé. C'est dans l'intervalle de ces deux textes, le traité perdu de 1629 et le discours de la méthode, que la plupart des critiques situent aujourd'hui le dialogue inachevé intitulé « La recherche de la vérité par la lumière naturelle » et qui comprend l'équivalent de la première méditation et d'une partie de la seconde. Dans ces conditions, les méditations constituent non pas le premier écrit portant exposé de la métaphysique cartésienne, mais le troisième portant un exposé au moins partiel de la métaphysique cartésienne, mais le troisième ou même le quatrième, et ce ne sera pas le dernier parce qu'il faudra compter avec la version courte que fournira la première partie des principes de la philosophie, dont la rédaction s'engage à peu près au moment où, enfin juste après la communication des méditations aux objecteurs parisiens. Donc, en réalité, le Descartes qui entreprend dans le courant de 1639, donc 10 ans après son premier essai, la rédaction des méditations, et à plus forte raison, le Descartes qui, plusieurs mois plus tard, met la dernière main à cette rédaction, ça a pris pratiquement toute une année, sait parfaitement où il va et quelles difficultés il doit affronter. Et si on retient pour les méditations l'idée d'une longue chaîne de raisons, comme dit le discours de la méthode, il faut penser que cette chaîne a été fabriquée anneau par anneau, non pas à partir du premier d'entre eux, c'est-à-dire de la méditation 1, qui serait du reste, on peut se demander ce que serait cet anneau si les raisons de douter de la méditation 1 ne sont précisément pas des raisons positives. Descartes dit dans la première méditation, je n'affirme rien, elle est toute remplie de doutes, mais la chaîne est fabriquée à partir du dernier anneau. Et à tout le moins, chaque question dans les méditations est avancée, chaque question est avancée avec l'arrière-pensée de sa solution. D'ailleurs, le lecteur, autre chose à ajouter, le lecteur des méditations lui-même est censé savoir parfaitement où on le mène. Supposons qu'il ne soit instruit de rien concernant l'œuvre de Descartes et qu'il n'ait jamais lu le discours de la méthode. En ouvrant les méditations métaphysiques, le livre tel que Descartes l'a publié, qui est d'une composition tout à fait originale, avec les objections et réponses, et tout à fait extraordinaire, il se trouvera placé, le lecteur, non pas directement devant le début de la méditation 1, mais devant une lettre épître dédicatoire au doyen, au docteur de la Sorbonne, suivie en latin d'une préface de l'auteur au lecteur et d'un abrégé des 6 méditations suivantes. Et à la fin de l'abrégé, aussi en français, qu'est-ce qu'il lira ? Il lira ceci. Dans la 6e méditation, dit Descartes, je distingue l'action de l'entendement avec celle de l'imagination. Distingue entre entendement et imagination, je saute quelques éléments. J'y montre que l'âme de l'homme est réellement distincte du corps, et toutefois qu'elle lui est si étroitement unie qu'elle ne compose que comme une même chose avec lui. Toutes les erreurs qui procèdent des sens y sont exposées dans la même méditation, avec les moyens de les éviter. Et enfin, j'apporte toutes les raisons par lesquelles on peut conclure l'existence des choses matérielles. Non que je les juge fort utiles pour prouver ce qu'elles prouvent, à savoir qu'il y a un monde, que les hommes ont un corps et autre chose semblable, qui n'ont jamais, c'est dit avant les méditations, qui vont s'ouvrir, toutes choses qui n'ont jamais été mises en doute par aucun homme de bon sens, dont aucun homme s'animentis à l'Esprit Saint, S.A.I.N., n'a jamais douté. Non pas que je les juge fort utiles, mais parce qu'en les considérant de près, on en vient à connaître qu'elles ne sont pas si fermes ni si évidentes, ces raisons, que celles qui nous conduisent à la connaissance de Dieu et de notre âme, en sorte que celles-ci sont les plus certaines et les plus évidentes qui puissent tomber sous la connaissance de l'esprit humain. Et c'est tout ce que j'ai eu dessein de prouver dans ce traité. C'est-à-dire, il y a bien un une échelle de la certitude. Il y a bien des vérités qui sont plus certaines et plus évidentes que celles qui concernent l'existence du corps et du monde, des corps et du monde, de notre propre corps, mais ces choses-là n'ont jamais été mises en doute par aucun homme doué de bon sens. Alors quoi ? Tout le début des méditations aurait donc été consacré à la mise en doute de choses dont aucun homme saint d'esprit n'a jamais douté. Mais alors comment considérer cette mise en doute elle-même comme une chose sérieuse ? Est-ce qu'il ne s'agira pas plutôt d'un pur jeu d'esprit ? Et s'agissant par exemple de l'existence des corps, est-ce qu'on ne devra pas plutôt reconnaître qu'elle a toujours été en toute rigueur indubitable, au point même qu'il faille reconnaître à sa connaissance une forme de première place dans notre esprit ? Cet étonnement quant à la réalité du doute cartésien a d'abord été dans l'archive textuelle dont nous disposons, celui de deux des premiers lecteurs des méditations, Pierre Gassendi, le grand penseur néo-épicurien, et le père Bourdin, jésuite. Gassendi écrit au début de ses objections, les cinquièmes, « Pouvez-vous assez sur vous-même, c'est-à-dire pouvez-vous vous forcer jusqu'à obtenir de vous-même, que de croire que vous ne soyez point éveillé et que toutes les choses qui sont et qui se passent devant vos yeux soient fausses et trompeuses ? Quoi que vous en disiez, il n'y aura personne qui se persuade que vous soyez réellement persuadé, qui persuadé à tout, qui soit persuadé que vous êtes persuadé, qu'il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous avez connu et que les sens ou le sommeil ou Dieu ou un mauvais génie vous ont continuellement imposé. Trompé. Quant au père Bourdin, il prend à la lettre certaines déclarations cartésiennes, par exemple, et pour rejeter en doute des vérités très familières. Il ne suffira pas ici de les considérer comme douteuses, mais il faudra les considérer comme fausses pour mettre en doute la possibilité. Il prend donc ces déclarations au sérieux pour mettre en doute la possibilité d'une telle opération. Septième objection, un peu. Mais je vous prie de me dire encore votre pensée là-dessus. Ce n'est pas une chose certaine que 2 et 3 fassent 5. Dois-je donc croire et assurer que 2 et 3 ne font pas 5 ? Oui, dites-vous, c'est ainsi qu'il le faut croire et assurer. Mais, Bourdin développe la possibilité d'en rester à cette position. Et du reste, les auteurs des secondes objections eux-mêmes, des proches de Descartes, parce que les auteurs des secondes objections, c'est essentiellement le père Mersenne, écrivaient très tranquillement, comme s'ils renvoyaient à une déclaration de Descartes lui-même. Vous vous souviendrez que ce n'est pas actuellement et en vérité, actuellement c'est-à-dire réellement, actu, et en vérité, mais seulement par une fiction de l'esprit, que vous avez rejeté, autant qu'il vous a été possible, les idées de tous les corps comme des choses feintes et des fantômes trompeurs, pour conclure que vous étiez seulement une chose qui pense. Bon, mais tous ces objecteurs, d'une certaine manière, ont raison. C'est-à-dire que il y a un problème quant à la modalité exacte du doute cartésien, dont il faut penser qu'elle est moyenne entre une expérience caractérisé et un régime de pure fiction. D'un côté, le sujet des méditations est bien celui d'un trouble intellectuel, même si les raisons de douter que Descartes d'ailleurs emprunte à un fond sceptique ancien et moderne, j'y reviens, ne sont proposées par lui que comme vraisemblables, ainsi qu'il l'écrit à Hobbes. La méditation de ces raisons suffit à créer, dans le temps de la lecture de la première méditation, un vertige intellectuel qui ne peut pas être fin. Et d'un autre côté, le père Bourdin a raison, la négation de l'existence des corps qui est donnée comme un fait au début de la seconde méditation et de la troisième n'est pas encore adhésion entière de l'esprit à l'idée que les corps n'existent pas. Cette adhésion, qui constituerait d'ailleurs une véritable croyance à l'inexistence des corps, n'irait pas seulement au-delà du tout le plus radical, elle installerait une espèce de contre-dogmatisme, en l'occurrence absolument extravagant, et encore moins désirable que ne l'est l'empire des préjugés auxquels l'esprit a entrepris de se soustraire. Donc il ne s'agit pas de croire pour de bon que les corps n'existent pas, il s'agit seulement, comme Descartes le précise à Bourdin, de vouloir tâcher de s'en persuader pour quelque temps, mais qu'est-ce que ça veut dire ? il faut accepter pour un temps de faire comme si les corps n'existaient pas, mais c'est un faire comme si. Cet état d'esprit est difficile à définir, comme cette opération, mais on peut dire qu'il est constitutivement double, et en tout cas, le doute cartésien est en soi une opération essentiellement savante quant à son matériau, qu'elle sait choisir dans une tradition et mettre en valeur, quant à son but qui est déjà fixé, et aussi quant aux forces et aux faiblesses des raisons qu'elle met en œuvre, et qui ne pourront jamais être de bonnes raisons, mais plutôt, pour parler comme le dialogue, la recherche de la vérité, des fantômes et de vaines images qui font fuir à la bord dans une lumière débile et incertaine, dans une lumière débile, faible et incertaine. Ces fantômes et vaines images vous font fuir, mais il suffit de se rapprocher pour les dissiper. Alors, comment Descartes sort de la mélancolie expérimentale que son doute crée? C'est une formule de Frédéric. Page 142. Je dirais, il s'en sort techniquement, mais la question, c'est cette mélancolie expérimentale. Deuxième point, la dramaturgie des méditations est pour une, je serai plus rapide, pour une part une dramaturgie classique. C'est, bon, on a un caractère, c'est lié à deux thèmes d'ailleurs connus. D'une part, il y a un caractère classique des raisons de douter, l'argument du rêve, enfin les sens trompeurs, les erreurs des sens, l'argument du rêve. L'idée que peut-être nous ne sommes pas si sains d'esprit que ça, etc. Même l'argument du dieu trompeur, on trouve dans le scepticisme ancien et plus encore chez les auteurs médiévaux du XIVe siècle, l'idée que Dieu peut nous donner l'apparence de l'évidence sans rien derrière. Hein. Et naturellement, nous avons, côté cogito, le précédent augustinien. Par exemple, on lit dans le traité augustinien de la Trinité, 15-12-21, on fait observer, c'est encore un chapitre à développer, on dit, les premiers lecteurs du discours de la méthode disent à Descartes, mais je pense donc je suis les déjà chez Saint-Augustin. Alors Descartes dit, oui, peut-être, je vais aller vérifier à la bibliothèque de la ville. Et puis il revient en disant, oui, j'ai regardé, mais Saint-Augustin se sert de ça pour prouver la Sainte Trinité. Développer des choses relatives à la Sainte Trinité, à son image dans l'esprit, tandis que moi je m'en sers à d'autres fins. Bon, mais enfin quand même, on lit dans le De Trinitate 15-12-21, c'est de science intime, intima scientia, que nous savons, que nous vivons, si bien qu'un philosophe de l'Académie, un sceptique, ne peut plus même objecter. Peut-être dors-tu sans le savoir, et ce que tu vois est sans songe que tu le vois. Qui ne sait en effet que les choses vues en songe sont très semblables aux choses vues à l'état de veille? Mais celui qui, de science certaine, sait qu'il vit, ne dit pas « je sais que je suis éveillé, mais je sais que je vis », qu'il dorme donc ou qu'il soit éveillé, il vit. Dans cette science, il ne peut être trompé par le sommeil, car qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, il est vivant. À son insu, à cette science, l'académicien ne peut pas objecter davantage. Peut-être es-tu fou à ton insu, car les visions des fous peuvent bien être très semblables aux visions des hommes saints d'esprit, mais qui est fou vit, et la réponse aux académiciens n'est pas « je sais que je ne suis pas fou, mais je sais que je vis ». Et Augustin dit « vivre » ici, mais dans d'autres passages du même traité, il dit « penser ». Il ne peut jamais se tromper ni mentir, celui qui dira qu'il sait qu'il vit, mille genres de fausses représentations peuvent être objectées à celui qui dit « je sais que je vis », mais il n'en redoutera aucune, puisque même celui qui se trompe vit, mais si de telles certitudes appartiennent seules à la science humaine, elles sont en très petit nombre, etc. Mais c'est un thème qui a, enfin, le privilège du savoir qu'on vit, savoir qu'on pense, savoir qu'on est, être, vivre, penser, C'est un thème qui court dans la philosophie médiévale, dans la tradition médiévale, et dont on retrouve un écho, enfin le privilège augustinien des pensées de ce genre, chez un auteur tout proche de Descartes dans le temps, et d'ailleurs un correspondant occasionnel de Descartes, un auteur chrétien, académicien, conseiller du roi Louis XIII, nommé Jean de Sillon, j'ai oublié de vous apporter ces dates, auteur d'un Sillon, S-I-L-H-O-N, auteur d'un traité de l'immortalité de l'âme, paru à Paris, avec privilège du roi et approbation des docteurs, en 1634, 1060 pages. C'est très, très long. Plus que l'homme des passions. Et on lit dans ce livre, dans le livre 1 de Sillon, page donc 1634, « Mais afin de contenter pleinement les esprits les plus difficiles, je vous lis le texte parce qu'il est... afin de contenter pleinement les esprits les plus difficiles et convaincre les plus opiniâtres, afin de forcer les volontés les plus déterminées à ne rien croire, les volontés les plus déterminées à ne rien croire du tout et à tout mettre en doute. Il ne s'agit pas de les forcer à les forcer ces volontés qui ne veulent, qui veulent tout mettre en doute, les mettre devant l'évidence, et afin qu'il n'y ait pas même de quoi repartir vainement, répliquer vainement, ni de quoi faire une mauvaise objection en faveur du pyrrhonisme, donc une autre variété du scepticisme que celle des académiciens. Voici une connaissance certaine, en quelque sens qu'on la tourne, et de quelques jours qu'on la regarde, et dont il est impossible qu'un homme qui est capable de réflexion et de discours, c'est-à-dire de raison, de raisonnement, puisse douter et ne s'assurer pas. Tout homme, dis-je, qui a l'usage du jugement et de la raison, peut connaître qu'il est, c'est-à-dire qu'il a un être, et cette connaissance est si infaillible que ce soit, que soit ou que... Alors il y a un bizarre truc de syntaxe, que toutes les opérations des sens externes soient elles-mêmes, même si donc, toutes les opérations des sens sont elles, en elles-mêmes trompeuses, ou qu'on ne puisse pas distinguer entre elles et celles de l'imagination altérée, ni s'assurer entièrement si l'on veille ou si l'on songe, et si ce qu'on voit est vérité ou illusion est feinte, il est impossible qu'un homme qui a la force, comme plusieurs l'ont, de rentrer en lui-même, comme plusieurs l'ont, et de faire ce jugement, qu'il est, il est impossible qu'il se trompe dans ce jugement, et qu'il ne soit pas. C'est une vérité aussi sensible à la raison que celle du soleil l'est aux yeux saints, que l'opération suppose l'être. Il est nécessaire qu'une cause soit afin qu'elle agisse et qu'il est impossible que ce qui n'est pas fasse quelque chose. Or, ce jugement que l'homme fait qu'il est n'est pas une connaissance frivole ni une réflexion impertinente. Il peut de la monter par discours, par raisonnement, jusqu'à la première et originelle source de son être, hein, la connaissance de Dieu même. Et il peut en tirer la démonstration de l'existence d'une divinité, comme je le montrerai au premier discours du livre suivant, etc. Bref, les plus saints et inviolables devoirs de l'homme, selon sa condition naturelle, sortent de cette racine et découlent de ce principe. Qu'il est, hein, qu'il est incontestable, que moi qui pense à moi-même, je suis. C'est un texte assez spectaculaire en tant que... anticipation, si l'on veut, du cogito, qui montre que le cogito cartésien, en réalité, rejoue un thème, la mise en scène cartésienne du cogito est une variation sur un thème connu. Il est connu qu'à partir du cogito, on peut prouver l'immortalité de l'âme humaine, c'est déjà dans le livre 10 du De Trinitate d'Augustin. L'erreur de l'âme sur elle-même vient de ce qu'elle s'identifie aux images des corps, mais elle se figure qu'elle est un corps, mais en réalité l'âme n'a pas à se chercher comme si elle était absente à elle-même. Qu'y a-t-il en effet d'aussi présent à la connaissance que ce qui est présent à l'âme, et qu'y a-t-il de plus présent à l'âme que l'âme elle-même? Donc elle se connaît tout différemment de la manière dont elle connaît les corps, qu'elle se distingue de ce qu'elle sait n'être pas elle, et le chemin vers Dieu est tracé par Sillon, c'est qu'à se dire dans le livre 2, sur un mode d'ailleurs qui s'apparente à une des preuves classiques de Thomas d'Aquin, et qui n'anticipe pas à cet égard la preuve cartésienne. Donc, j'abrège un peu, mais on a affaire ici, il y a l'opération cartésienne, non pas comme opération d'invention pure, mais comme opération de second degré, c'est-à-dire réélaboration de thèmes classiques, avec la question chez Descartes, comment mettre en scène ces thèmes classiques avec le maximum de rigueur. La mise en scène, la dramaturgie, c'est vrai, est particulièrement serrée, tirée au cordeau pour que la démonstration soit la plus effective. Elle est aussi, en tant que telle, la plus savante, mais si vous voulez, de même que Descartes, dans les méditations, reprend pour perfectionner son exposé une matière qu'il a déjà longuement élaborée, il reprend aussi une matière élaborée par d'autres, et donc le second degré est partout. J'en termine rapidement avec le troisième point. Étant donné, enfin, je voudrais le développer plus longuement, étant donné ce caractère doublement savant de l'opération cartésienne, quelle réalité doit-on accorder à des menaces abyssales sur la connaissance humaine? Il me semble assez peu de réalité. La figure du trompeur, on peut évidemment la grossir, mais elle représente moins qu'un fantôme, c'est une figure évanouissante. Le concept du dieu trompeur, Descartes évite d'ailleurs constamment d'accoler les deux termes, ce qui serait une espèce de blasphème. Le concept du dieu trompeur est un concept contradictoire. Dieu ne peut pas être trompeur. Par Dieu, nous entendons un être infini dont les perfections sont infinies, c'est-à-dire infini en perfection, dont les perfections sont infinies, donc souverainement parfait, et comme il est dit quelque part dans la quatrième méditation au début, pouvoir tromper est peut-être puissance, mais vouloir tromper est impuissance, donc un être parfait ne peut pas vouloir me tromper. Il ne se peut faire qu'un être parfait veuille me tromper. Ce n'est pas une incapacité qui limite sa puissance, c'est une donnée d'essence. La notion, l'idée du dieu trompeur est une idée très évanescente, et du reste, le passage que j'ai évoqué de la troisième méditation qui le campe à nouveau, le campe dans le lointain, parce que dès que je reviens évidemment à la considération de l'évidence du genre 3 plus 2 égale 5, ma réponse, dit Descartes, enfin, je invinciblement, je suis porté à me dire, me trompe qui pourra, pour moi, 3 plus 2 ne sont jamais autre chose que 5. Donc il y a une balance qui s'instaure ici et qui, de toute façon, ce dieu trompeur ne peut pas me tromper sur ce que je considère actuellement, il ne peut me tromper que sur ce que, enfin, des pensées en général, des choses que je ne considère pas actuellement, son empire est en même temps beaucoup plus vague qu'il ne paraît à première vue. Donc, ce dieu n'est pas une menace réelle, et du reste, dans le premier grand traité de Descartes, les règles pour la direction de l'esprit, on cherchera vainement quelque doute que ce soit sur la possibilité de la connaissance humaine ou sur son authenticité. Il y a beaucoup de questions s'agissant de la nature de l'objectivité, mais à proprement parler, rien ne menace l'esprit. La mémoire est glissante, on se prend facilement pour un souvenir ce qui n'en est pas un, certes, mais il y a des remèdes pour que ça, et c'est à peu près tout. Or, est-ce que entre la rédaction dérégulée dont la date n'est d'ailleurs pas si fixée, on dit couramment 1628 parce que c'est avant la réflexion métaphysique, est-ce qu'entre la rédaction dérégulée et les méditations, il y a à proprement parler une crise cartésienne? Rien ne l'atteste. On parle de la crise sceptique de Descartes à la sortie du collège, rien n'atteste cette crise sceptique, mais rien n'atteste non plus qu'il y ait eu une crise sceptique entre une première période d'activité scientifique et philosophique très nourrie de Descartes dans les années 1620, et puis le moment où il se met à ses méditations métaphysiques. Le passage dérégulé aux méditations s'effectue, certes, avec la nécessité d'une régression vers la question des fondements. La question des fondements n'est pas posée par les régulés, elle est posée ensuite, mais bon, la situation est un peu la même que celle que décrira très longuement Descartes dans les septièmes réponses, en réponse donc à Bourdin, évoquant un architecte qui veut construire une chapelle, une très belle chapelle, hein, et qui, pour ça, pour que sa chapelle soit absolument solide, est obligé de creuser profond, creuser un sol meuble, jusqu'à trouver le roc sur lequel il va construire pour de bon. C'est l'opération de Descartes dans la construction de la métaphysique, qui est une opération sérieuse, mais pleine d'assurance technicienne et entreprise avec la méthode de quelqu'un qui s'est habitué à traiter des questions de difficultés très, très, très variables, les traiter en ordre, y compris des questions qui enveloppent la considération de l'infini. Et s'habituer à traiter ces questions, ça veut dire toujours mesurer ses forces. Quant à la création des vérités éternelles, est-ce qu'il faut vraiment être absorbé par l'idée que Dieu aurait pu faire ou a pu faire ailleurs tout autre chose que la réalité qui est offerte à notre esprit? Probablement pas, probablement non. Je retiens plus, j'incline à retenir une formule des lettres à Mersenne d'avril 1630, qui sont le premier témoignage de la réflexion proprement métaphysique de Descartes. Descartes dit « Dieu a été libre de faire qu'il ne fût pas vrai que les trois angles d'un triangle fussent égaux à deux droits et choses semblables. Dieu a été aussi libre de faire que cela ne fût pas vrai que de ne pas créer le monde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde alternatif dans lequel les trois angles d'un triangle font autre chose que deux droits, dans lequel 3 et 2 font 6 plutôt que 5, dans lequel, etc., etc. Non. Il y a notre monde avec ses lois, les vérités constituantes avec lesquelles nous l'appréhendons, c'est notre monde ou pas de monde du tout. C'est uniquement ça. Ce qui reste vrai chez Descartes, c'est le besoin de protection. Le besoin de protection est manifeste et il se lit en quelque sorte à livre ouvert dans un passage de la première méditation qu'on saute assez généralement. C'est juste après l'argument du dieu trompeur. Donc qu'est-ce qui se passe si un dieu trompe, si le dieu, j'ai une ancienne opinion d'après laquelle il y a un dieu qui peut tout, qu'est-ce qui m'assure que ce dieu n'a pas fait que je me trompe chaque fois que je fais l'addition de deux ou trois, ou dans toutes les choses que je crois les plus évidentes. Descartes ajoute, mais il y aura des gens qui voudront nier l'existence d'un Dieu si puissant. Eh bien, quelque origine qu'ils attribuent à ma nature, d'une certaine manière, ce sera pire. Parce que ils voudront ils feront l'origine de mon être plus imparfaite, ils l'attribueront à un être plus imparfait, et je retrouve la phrase qu'à l'instant je ne peux pas vous déplier correctement, de quelque façon qu'ils supposent que je sois parvenu à l'état ou à l'être que je possède, soit qu'ils l'attribuent à quelque destin ou fatalité, c'est le destin des stoïciens, soit qu'ils le réfèrent au hasard, comme les épicuriens, soit qu'ils veuillent que ce soit par une continuelle suite et liaison de choses, c'est la nature aveugle, j'ai un nom pour ça, c'est Straton de Lampsaque, Il est un auteur dont parle Montaigne et d'abord Cicéron. Il est certain que, puisque faillir et se tromper est une espèce d'imperfection, d'autant moins puissant sera l'auteur qu'ils attribueront à mon origine. C'est une phrase formidable. D'autant moins puissant sera l'auteur qu'ils attribueront à mon origine, d'autant plus sera-t-il probable que je suis tellement imparfait que je me trompe toujours. Plus l'auteur de mon origine, moins l'auteur de mon origine sera puissant, plus il sera probable que je me trompe toujours. Donc, pas de Dieu tout-puissant, et ben, c'est pire. Je suis livré à une espèce de hasard où je ne suis assuré d'aucune prise sur les choses. Donc, un empiriste, sensualiste, épicurien pourrait dire, mais c'est pas grave du moment que ça marche. Mais pour Descartes, évidemment, ça ne lui suffit pas. Il faut un degré d'assurance, une certitude métaphysique. La certitude métaphysique dont les méditations sont en quête. Et pour ça, effectivement, il faut un Dieu tout-puissant qui règne non seulement sur la nature, mais sur la connaissance, mais sur la vérité. Moyennant quoi, comme dit Lacan, cité par Frédéric, l'être du sujet est la suture d'un manque. C'est peut-être ça. Bon, voilà, c'était à peu près tout.